Je voudrais revenir sur ta conclusion et sur les notions très importantes d'illusion bien fondée et sur ce que tu as appelé donc cette espèce d'échelle ontologique. Je voudrais donner un petit exemple et poser une question plus générale. Dans ton travail, tu as montré donc comment se constitue la catégorie de consommateurs, comment elle se constitue aussi comme catégorie d'intervention publique. D'ailleurs, par parenthèse, je me suis beaucoup inspiré de ton travail pour mon propre travail sur toute autre chose. Et donc, comment finalement cette officialisation de la catégorie de consommateurs contribue à faire exister quelque chose dont on peut douter de l'existence ontologique dure, quoi. Et le petit exemple que je voulais donner pour poser une question plus générale, c'est, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans la presse récemment, le gouvernement britannique a créé récemment un ministère de la solitude. Donc dans le degré d'existence ontologique, pose aussi potentiellement question. Est-ce que je voulais simplement, alors ça sonne bizarre, ça sonne de façon un petit peu étrange, et comme peuvent sonner ou paraître un peu étranges, justement des constructions qui sont historiquement, nationalement différentes de celles qu'on a fini par considérer comme naturelles. Et donc la question que je voulais te poser, et que c'est une question que je me pose qu'on peut poser de façon plus générale, c'est que quand on a le type de démarche qui est la tienne, en général, le réflexe qu'on a, c'est de dénaturaliser par l'historicisation et par la reconstitution de la genèse, ce que tu as fait. On fait beaucoup moins une chose qui est la dénaturalisation par la comparaison internationale pour toute une série de raisons. Parce que la comparaison internationale, je l'ai dit un petit peu hier, il s'agit pas d'être hostile à la comparaison internationale, ça n'a pas de sens, mais est souvent l'apanage d'orientation plus mainstream et pose toute une série de problèmes méthodologiques. Mais je me demande si on pourrait pas mobiliser justement aussi dans ces cas-là la comparaison internationale comme outil de rupture permettant des constructions d'objets tels que la tienne. Et ce d'autant plus que un objet comme le tien et comme beaucoup d'autres sont aussi le fruit de comparaisons internationales indigènes, si je puis dire, d'influence, d'import-export de modèles, etc. etc.
Le problème, c'est un problème pratique, c'est-à-dire conceptuellement, effectivement, on ne peut qu'être pour les comparaisons internationales. Le problème pratique, c'est de quels instruments disposent les partenaires avec lesquels on va pouvoir établir ces comparaisons. Alors évidemment, il y a la lecture. Moi j'ai lu de la littérature américaine sur les mouvements consommateurs. C'est mou. Enfin, c'est ce que l'expression de Bourdieu est justifiée, même pas faux, quoi. C'est intéressant, c'est vrai. Ah oui, ah bon. Mais en même temps, voilà. Alors justement aux États-Unis, ça remonte à un certain temps. Peut-être que les choses se sont améliorées, mais j'en suis pas sûr. J'avais vu à quoi ressemblaient un peu ces dialogues. C'était très dominé par les historiens, peu de sociologues. Quand j'ai commencé à parler d'une genèse de catégorie, vraiment, je paraissais comme un espèce de philosophe allumé qui se posait des questions méta-théoriques, ce qui n'était vraiment pas... ces questions de genèse de catégorie, elles sont empiriques. Enfin, on peut travailler là-dessus, c'est pas... ça s'était pas très bien passé. Donc, j'ai peut-être pas envie de rééditer. En plus, il faut ajouter une chose... ça ne sortira pas de cette enceinte. Cet objet consommation est relativement bas dans la hiérarchie des objets sociologiques. Donc, qui on trouve pour dialoguer, c'est pas toujours la joie. Et les travaux, pas toujours... Alors, il y a une historienne en France qui fait des choses très sérieuses. Mais alors, ça ne se pose pas mes questions. Je ne la convertirai pas du tout. Tu la connais, c'est pas bon. Voilà. Je botte en touche, mais bon.
Alors, j'ai une question pour Yvon Lamy, qui parlait du maître d'orgue et de la détestation possible, mais finalement du bénéfice symbolique, de l'émerveillement, de voir comment il s'en sort. Et à un moment donné, tu as dit, on s'est dit, on a bien choisi en l'adoptant comme prof. Mais en même temps, au début, tu as dit, c'est lui qui a accordé à la femme âgée de pouvoir s'inscrire sans faire ses preuves dans un exercice. Donc il a présélectionné ses élèves, certains en les faisant travailler, venez me voir et on verra si je peux vous accepter, d'autres... Donc comment il opère ? Comment se fait la reconnaissance mutuelle peut-être, mais lui-même, il a l'arbitraire du porteur du charisme là, qui dit à Yvon Lamy, bon, bah, vous travaillez ça, puis on verra si je vous accepte dans ma classe. Et puis à cette femme, il lui dit, bon, bah, venez. Donc j'aimerais bien savoir comment oui. ça marche. Et lié à cela, est-ce qu'il y a des gens qui disparaissent ? Parce que c'est-à-dire, est-ce qu'il ne reste plus que les catholiques émerveillés, enfin, ou les catholiques en puissance oui. émerveillés, et les autres, où sont-ils ? Voilà.
Merci Christophe. Oui, pour la première question, je peux te dire comment ça s'est passé pour moi. Donc, je me suis présenté, c'était peut-être en novembre ou en décembre. Et il m'a dit, oui, bien sûr, je peux vous prendre, mais il faut que vous soyez capable de jouer un morceau à trois voix. Voilà, première exigence. Et il est monté à la bibliothèque. Il m'a trouvé, il est allé me chercher une fugue de Bach, petite fugue de Bach et un petit choral. Et puis, il m'a dit, vous préparez ça et vous revenez me voir dans 3 semaines. Donc, je me suis exécuté. Tu sais, on est des petits-enfants au conservatoire. C'est assez étrange. J'ai l'impression que je reviens à l'enfance un peu. C'est un peu bizarre. Donc, moi, j'ai un piano chez moi. J'ai travaillé ça. Bon, voilà. Et puis, le jour où je me suis représenté, il était content. Il m'a dit, alors, bon, vous l'avez préparé. Très bien. Non, il m'a donné 2 morceaux aussi du clavier bien tempéré. Voilà. Et il m'a dit, ben, nous allons le jouer à l'orgue de l'église Saint-Pierre du Quairois. Donc, il m'a amené dans cette espèce de tribune et il m'a préparé l'orgue, tout ça, les jeux. Et il m'a dit, ben, allez, à vous, jouez le 24e prélude du clavier bien tempéré sur l'orgue. Voilà. Il m'a écouté, il tournait autour, je me souviens, comme ça, regardez comment je faisais, etc. Et puis ensuite, j'avais une fugue, je jouais un peu la fugue. Bon... Il m'a dit, cette fugue est un peu compliquée, elle va mieux pour le clavecin que pour l'orgue, mais ça fait rien, c'est bien. Et puis il m'a dit, ben, c'est bien, je vous prends. Donc il m'a pris, et comme c'était au mois de novembre, je n'étais pas inscrit au conservatoire, mais j'étais ce qu'on pourrait appeler un passager clandestin, si on peut dire. D'ailleurs, je me présentais comme ça aux autres collègues, je dis, vous savez, ils ne me recevaient pas dans l'organigramme des cours, ils me recevaient à côté. Donc il a commencé à me faire travailler comme ça. À côté, avec ses consignes très précises. Voilà, donc c'est la première question. Oui, il y a des disparitions. Il y a des gens qui sont très vite écœurés par le travail que ça demande, par les injonctions et les prescriptions du maître, par le fait que si on veut faire des progrès, il faut évidemment énormément répéter. Et si vous voulez répéter, il faut y être très très souvent. Donc se battre aussi pour avoir accès à l'instrument. C'est vrai pour tous les instruments. Le conservatoire ne fournit pas comme ça une panoplie. Par exemple, au conservatoire de Limoges, il y a 2 orgues. Donc on peut se répartir sur 2 orgues. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a par contre 7 pianos, 8 pianos. Donc quelquefois, il m'arrive, quand tout est bouché, de jouer sur un piano, de décoder un nouveau morceau sur un piano. Donc on circule, c'est un espace où on circule quand même, le conservatoire. Alors sur la disparition, oui, il y a une disparition, j'en ai vu. J'ai vu des disparitions d'anciens surtout. Et surtout, il y a une disparition alors très très forte des bacheliers. Ça aussi, je l'ai fait dans mon enquête. Je ne vous en ai pas parlé, on n'a pas le temps de faire tout ça. Hein. Mais j'ai essayé d'examiner dans les 3 groupes, dans les 3 classes d'âge, les 3 groupes d'âge que j'ai répertorié pour la classe. Je me suis aperçu qu'il y a une chute extrêmement forte à partir du moment où ils rentrent à l'université, les cours sont l'encadrement familial en quelque sorte disparaît, me semble-t-il, Et évidemment, tous les problèmes qu'ils ont eus, toutes les difficultés qu'ils ont eues à faire du solfège, à travailler tel instrument, à subir la contrainte du maître et ses injonctions, sont purement et simplement levés. Et à eux la liberté. Voilà un peu comment ils le pensent. Ça, c'est le premier groupe. Le second groupe, au contraire, c'est une reprise d'études. Eux, ils ne disparaissent pas. Ils avaient disparu et ils réapparaissent. Le groupe des 35-50 ans, ils réapparaissent après avoir élevé leurs enfants. Donc, ils élèvent leurs enfants, ils les conduisent au conservatoire, toute la famille fait de la musique. Et, bien sûr, pendant 15-20 ans, ils s'occupent de la scolarité de leurs enfants et essentiellement de ça. Mais après, eux s'y mettent, quelques-uns en tout cas, s'y mettent à partir de 50 ans, 45-50 ans, quand les enfants s'étaient élevés. Et à ce moment-là, et ça, on le voit dans toutes les classes, mais on le voit aussi très bien en orgue. Par exemple, il y a actuellement une personne qui avait fait de l'orgue quand elle était jeune, hein, qui avait complètement abandonné à partir de son mariage, à partir de sa professionnalisation, quand elle s'est professionnalisée, quand elle a eu des enfants, qu'elle a évidemment conduit au conservatoire, dans une espèce de cercle vicieux. Mais elle s'y est remise elle-même, sous le regard un peu goguenard de ses enfants, me dit-elle, hein, qui se moque un peu d'elle en disant « oui, mais tu ne joues pas comme il faut », etc., etc., à l'intérieur de la famille. Et elle s'y remise en disant, en essayant de reprendre pied dans tout ce qu'elle avait acquis quand elle était jeune. Et puis il y a le troisième groupe, qui aussi connaît une certaine évaporation. C'est le groupe dans lequel je suis, c'est-à-dire le groupe ce que j'appelais les vocations tardives, le troisième groupe, les gens qui ont le temps, qui consacrent leur temps, effectivement, qui organisent leur temps comme ils veulent parce qu'ils sont retraités et qui, par conséquent, ont choisi de jouer cet instrument ou de jouer dans notre instrument ou de jouer de deux instruments. Par exemple, le gars dont je vous ai parlé joue de l'accordéon, joue de l'orgue, mais aussi il fait de l'histoire de la musique, mais aussi il fait de l'improvisation musicale. Donc, très souvent, il y a comme ça, des gens qui sont sur plusieurs profils, et qui appartiennent à plusieurs classes. Et évidemment, dans ce troisième groupe, il y a aussi des gens qui disparaissent. Parce qu'ils changent, parce qu'ils supportent pas l'autorité du prof. Il y avait un prof de maths, par exemple, l'année dernière, qui est parti, qui était, me semble-t-il, ce que j'ai fait dans cette enquête, ça m'a obligé à assister à des cours. Donc, à être présent alors que d'autres jouaient et à voir comment le professeur se comportait avec eux, vis-à-vis d'eux. Alors, par exemple, ce prof de maths, à la retraite, est parti au bout d'un an. Je sentais qu'il le ruait dans les brancards. Il contestait tout ce que lui disait le maître, ce que disait l'enseignant en permanence. Mais non, c'est pas comme ça, mais j'ai vu sur un CD que cette cantate de Bach, on la joue pas du tout comme ça, on la chante pas comme ça. Cet air, il n'est pas... Il est... Alors, par un tel, il est joué de telle manière. Et à côté, le prof s'arrache les cheveux en disant, mais ne regardez pas Internet, vous ne regardez pas les CD, c'est pas intéressant, n'écoutez pas les CD, c'est pas intéressant. Suivez mes consignes, voilà. Et au bout d'un an, il est parti. Donc, il y a aussi une évaporation.
Yvon, si tu permets, j'aurais une question de cadrage, si tu veux, sur sociologie de la musique, et pas spécialement l'orgue. Et, voilà, je me demande dans quelle mesure l'orgue ne serait pas un cas limite de cette relation entre musique et religion. Ce qui me frappe beaucoup, en tant qu'auditeur profane de France Musique ou... c'est le nombre d'émissions où des gens sont invités pour parler de leurs goûts musicaux et où c'est 9 fois sur 10 une expérience de type religieux qui est exprimée, notamment avec la catégorie d'intériorité. C'est-à-dire, là, j'écoute, là, c'est au-delà de... voilà. Donc, ça me semble... alors, est-ce qu'on peut pas essayer... Alors, on peut dire ça tient à la musique, qui est de nature religieuse, etc. Enfin, qui a l'âme, mais ça, à ce moment-là, on reproduit un peu le discours des agents. Ou bien, on peut peut-être historiciser en se demandant dans quelle mesure l'institution moderne du concert ne tend pas à produire l'intériorité, c'est-à-dire au sens quasi-foucaldien, c'est-à-dire un dispositif qui produit de l'intériorité du simple fait de la clôture qu'il produit avec le silence. Et on sait que on sait maintenant que le concert est une création relativement récente, qui n'a rien à voir avec la musique religieuse des temps passés d'un côté, ou avec la musique de cour d'un autre côté. Voilà, où il y a un certain nombre de règles, à commencer par le silence. Donc le silence est une condition, Durkheim en parle, le silence, le sacré, le profane, etc. Le silence est une condition, effectivement, de l'accès à l'authenticité de l'œuvre. Est-ce qu'on ne peut pas dire, d'une certaine manière, que l'orgue serait le plus spirituel de tous les instruments
Mais bon. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui.
Mais la dimension religieuse, par exemple en danse contemporaine, dans les spectacles de danse contemporaine, moi j'ai aussi ce sentiment d'aller à l'église, si vous voulez. Pourquoi pas en théâtre aussi. Donc si vous voulez, après, ça veut dire qu'il y a une, ça se voit plus ou moins clairement. Peut-être quand on va voir un spectacle de danse contemporaine, ça se voit moins que quand effectivement on écoute France Musique ou quand dans un cours d'orgue. Mais je pense que les mécanismes sont assez proches, sinon les mêmes. Donc simplement, voilà, c'est un continuum plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des positions, on mettrait en haut l'orgue, et puis on pourrait mettre la danse contemporaine dans cet endroit, le théâtre là, etc. Je dirais même dans les modes de socialisation. Enfin, je veux dire que quand je compare les modes de socialisation, quand je vais dans un concert de rock ou danse contemporaine, c'est pas du tout les mêmes modes de socialisation, si vous voulez. Et c'est très impressionnant. Enfin, c'est vraiment très impressionnant de voir comment en danse contemporaine, les gens viennent vers moi, par exemple. Ça me stupéfait. En X années, personne ne vient vers moi, si vous voulez. Même au Festival d'Avignon, quand je compare la socialisation dans les salles du Festival d'Avignon et dans l'auberge jeunesse. Et moi, dans l'auberge de jeunesse, il y a énormément de passages de jeunes gens. Tous les jours, les jeunes gens viennent discuter avec moi, etc. Enfin, à l'époque, quand j'étais un jeune homme. Et il y a tous les jours. Et jamais, jamais au Festival d'Avignon. Et c'est impressionnant. Le matin et le soir, il y a une socialisation. Ça n'arrête pas de... Plein de gens passent. Les gens restent 2-3 jours maximum. Donc tous les jours, je rencontre une nouvelle personne. C'était vraiment très sympa. Et pendant 15 jours, 3 semaines au Festival d'Avignon, personne ne venait me voir, me parler. C'est extraordinaire. Donc il y a deux modes de socialisation très différents. Et quand je vais au théâtre de la ville, enfin ou d'autres, j'ai l'impression d'aller à la messe. Et on va au totem, il y a des phénomènes de soumission, et le silence, par exemple, le silence à l'Opéra de Paris, c'est une invention, parce qu'à une époque, on avait l'autorisation de prendre à partie les interprètes, de les critiquer, de les siffler, de les insulter, ça allait de soi. Puis il y a eu tout un phénomène de mise en ordre, de contrôle et d'imposition du silence. Et c'est vrai que le silence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, voilà, donc je pense qu'on doit élargir, si je peux me permettre.
Oui, mais ces deux remarques, ces deux interventions sont concordantes et convergentes. Oui. Tout à fait, me semble-t-il. Moi, ce que j'essaie de montrer, enfin, ce que j'essaie de montrer dans cette enquête qui ne fait que commencer, hein, et qui est quand même assez épineuse, parce que je suis dedans, je suis dehors. Je me décris en décrivant les autres. C'est compliqué comme posture, vous voyez. D'ailleurs, bon, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais cette réflexivité-là est à inventer, quoi. Alors ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que je crois que le baroque, ce qu'on appelle le style baroque, et puis l'époque baroque aussi. Hein, Je lis beaucoup sur le baroque aussi, à droite à gauche, en littérature, en peinture, etc., pour voir s'il y a des connotations avec ce qu'on appelle le baroque en musique, par exemple. Mais le baroque aujourd'hui, par exemple, semble coiffé, effectivement, semble être le lieu où viennent converger toutes ces aspirations mystiques, spiritualistes, émotionnelles. Par exemple, je trace le portrait de l'élève type de la classe d'orgue du conservatoire. Et voici ce que cela donne. L'enjeu spiritualiste pourrait se traduire ainsi par ce message. Un élève dit « Dans mon apprentissage d'aujourd'hui, il y va de ma vie, de mon âme, de mon désir. » Expression des émotions, deuxième élément de ce portrait type. Hein. « Je me rappelle les moments fondateurs de mon amour pour la musique sacrée. Sentimentalement, ils sont liés à mon enfance et à ma famille. » Ce sont des phrases. Hein. Référence théologique, troisième élément de l'élève type. La musique d'orgue est un autre accès à l'ineffable religieux, car elle est tour à tour artistique et mystique. Voilà. Donc je me trouve devant des discours comme ça. Il faut que je me déprenne de ces discours, bien sûr, et que j'essaie de voir ce qui est en jeu, enfin, quelles sont les conditions de production d'un tel discours, et puis, que, évidemment, qui les parle, qui les produit, et dans quel contexte ils les produisent. Et je voudrais dire ici aussi que j'ai eu beaucoup de refus. Hein, il y a des gens qui ont refusé, pour ces raisons-là, me semble-t-il. Parce qu'ils ont pensé que ça allait dévoiler certains éléments de leur vie personnelle ou de leur vie privée. Par exemple, il y en a un qui m'a dit « Non, je ne peux pas venir faire cette interview avec vous, parce que cette enquête avec vous, parce que je n'ai rien à dire en dehors de la simple technique musicale qui est la mienne quand je joue. » Donc, si vous n'avez rien à dire en dehors de la technique musicale, en dehors de vous, je ne peux pas parler des parents, je ne peux pas parler de leur culture, je ne peux pas parler de leur pratique culturelle, je ne peux pas parler de tout ce qui m'intéresse moi en tant que sociologue. Je suis donc coincé par ça. Et évidemment, par contre, d'autres ont très, très facilement joué le jeu et se sont carrément même intéressés à la démarche en disant « Mais oui, c'est intéressant, ça m'intéresse, bon voilà ». Mais bon, je trouve que vos deux contributions, vos deux remarques sont tout à fait convergentes. Elles vont tout à fait dans le sens de ce que moi je découvre. Reste à savoir comment je vais objectiver et sociologiser cet objet. Ça, c'est un autre problème. Et à mon avis, il n'est pas simple à faire. Parce que, évidemment, on ne peut pas s'en tenir. Je relisais, par exemple, le petit texte de Bourdieu dans « Questions de sociologie » sur la musique. Dit « Oui, la musique, c'est la pureté, c'est le rapport à la pureté, etc. » Bon, une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et moi, par rapport à ce que je vis en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, qu'est-ce que je peux apporter? En plus de l'objectivation qu'ils me proposent dans leur discours. Car ils me proposent une objectivation avec laquelle je suis d'accord. Ils décrivent un certain nombre de choses que je vis moi dans les cours. Qu'est-ce que je peux apporter moi en plus, en tant que sociologue par exemple, sur cette objectivation qu'ils construisent d'une manière spontanée, car il y a une objectivation spontanée qui se traduit dans la parole même, la parole vivante des gens.
Bon, on va prendre une dernière question et après nous aurons les grandes orgues. Qui concluront ces journées.
Non, mais je ne savais pas si c'était la dernière question.
Vas-y.
Non, c'était juste... Je me demandais si, à côté de ce que vous dites, il n'y avait pas aussi eu... C'est en vous écoutant, quand vous avez parlé de l'opposition entre musique romantique et musique baroque, le côté staccato de la musique baroque...
Oui,
et
les gâteaux.
Et ça m'a fait penser aux années 90, où il y a eu cette espèce de mode énorme de la musique baroque. Ouais. Je me rappelle quand j'allais au Virgin, bon, partout. Et alors moi, je ne suis pas du tout sensible à la musique baroque, mais vraiment à la musique romantique. Et je me suis demandé si cette espèce de triomphe de la musique baroque n'était pas liée un peu au triomphe du néolibéralisme, avec ce côté justement staccato, extrêmement, pas du tout sentimental, pas du tout du côté de l'émotion, mais quelque chose de très rationnel.
Oui.
Et du coup, je me demandais si, à côté de cette expérience mystique, spirituelle du baroque, il n'y avait pas aussi une expérience de la musique baroque, au contraire, pas du tout spirituelle, mais uniquement la beauté de la voix, la technique... l'instrument de la bonne époque, vous voyez, une espèce d'objectivité. Oui. Et donc, il n'y avait rien à voir avec cet aspect catholique, mais un aspect complètement... l'homme idéal du capitalisme rentre chez lui, il écoute Jordi Savall, et puis voilà.
Oui, c'est vrai. Ouais. Non, je suis frappé par le fait, simplement, pour répondre assez rapidement maintenant, je suis frappé par le fait que le baroque... donne lieu, en tant qu'époque historique, style artistique, style esthétique aussi, style musical, à des recherches scientifiques extrêmement poussées. Et il me semble qu'on n'a pas ça dans le romantique. Et cette objectivation qui s'opère par là, par le fait qu'évidemment, on travaille énormément sur les types d'instruments, etc., laïcise l'objet, si on peut dire, lui neutralise son aspect trop religieux. Et lui donne, en quelque sorte,
une dimension d'une production humaine assez simple finalement, hein, qui se d'autant qu'en plus ces scientifiques ou en tout cas ces savants historiens qui travaillent sur la musique d'orgue et sur la musique instrumentale redécouvrent des instruments très populaires qui jouaient précisément de la musique baroque. Et donc d'une musique qui est plutôt populaire et plutôt non religieuse. Donc c'est peut-être par cette voie, de cette objectivation historico-scientifique, qu'on peut retrouver un baroque non religieux.
C'est compliqué, hein. La dernière.